Et aujourd'hui, nous sommes à Cherbourg, dans la Manche.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle étape de notre rendez-vous place du marché. Hier, vous étiez avec Aurélie Sfez à Florac dans les Cévennes. Aujourd'hui, nous sommes à Cherbourg en Normandie. Cette commune de 80 000 habitants a le charme de toutes ces villes du bout du monde, ses bateaux, ses odeurs iodées et ses champs de mouettes. Car après Cherbourg, c'est la mer, ou plutôt la Manche. En face, à seulement 120 km, on trouve les côtes anglaises. Cherbourg est donc plus proche à vol d'oiseau du Royaume-Uni que de Paris. L'histoire de la ville est étroitement liée au développement de son port. C'est de là que vient une partie de son industrie, l'armement militaire maritime. C'est ici que sont construits les sous-marins nucléaires français, comme le premier d'entre eux, le Redoutable. Autre légende maritime qui a fait escale à Cherbourg, le Titanic en 1912, lors de son voyage inaugural. On a pensé à tout ça avec une certaine émotion avant d'arriver sur ce marché quand on a longé la rade. Ce bassin artificiel est le plus grand d'Europe, il s'étend sur 1500 hectares. Son origine remonte à Louis XVI, qui cherchait le meilleur endroit pour stocker la flotte de guerre française. Il aura fallu plus de 100 ans pour que le projet arrive à son terme. Cherbourg et la mer sont intimement liés. Les gens qu'on a rencontrés ici nous ont tous raconté leur passion viscérale pour tout ce qui touche au maritime. Une femme nous a même dit que c'est de l'eau de mer qui coule dans ses veines. Gérard Bourdet, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous aussi, vous avez de l'eau de mer qui coule dans vos veines ?
Oh, tout à fait, oui, je pense, oui effectivement, oui. Bon, moi, la mer, elle m'a tout apporté, elle m'a tout donné. J'y dois tout à la mer, moi. Elle m'a appris à faire de moi un homme, elle m'a appris l'humilité, elle m'a appris le respect, elle m'a appris la volonté, ne pas baisser les bras. J'y dois tout à la mer.
Et vous avez essayé de transmettre cette passion avec des jeunes. Vous avez eu plusieurs vies. Ancien pêcheur, ancien gendarme, vous avez créé une association qui aide les jeunes en difficulté à revenir dans le droit chemin. Pour ça, vous les emmenez justement avec vous en mer. On en reparle tout à l'heure. On rencontrera aussi une femme exceptionnelle, une armatrice qui dirige une cinquantaine de pêcheurs. À l'heure de l'apéro, elle nous fera goûter ses rillettes préparées avec des poissons pêchés dans ses filets. On parlera aussi du nucléaire, qui est très important ici, et de la place qu'il occupe dans la région. On fera également la connaissance de deux journalistes qui font de l'investigation 100% Normandie et on finira avec des champs marins. Mais avant, on écoute General Electric avec Party Like a Human, un titre proposé par Chewbacca.
Look for us, the sun is us.
Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Rendez-vous Place du Marché à Cherbourg en Normandie. Nous sommes toujours avec Gérard Bourdet, fondateur de l'association Les Voiles Écarlates. Votre but, c'est de remettre des jeunes en difficulté sur la bonne voie en partant avec eux sur votre bateau. À côté de vous, Sophie Leroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes armatrice ici à Cherbourg. C'est rare ça, non? Une femme armatrice?
C'est pas fréquent, on va dire. Non, c'est... Voilà, en Normandie, il y en a... Un peu, mais de chalutier, c'est assez rare. Oui.
Vous nous expliquerez ça dans quelques instants. Comment vous faites aussi pour diriger une cinquantaine de pêcheurs? Mais on va commencer avec vous, Gérard Bourdet. Votre vie, c'est un roman. Vous avez été marin, gendarme, et depuis 25 ans, vous êtes un bon samaritain. Vous aidez donc des jeunes en difficulté à revenir dans le droit chemin en les emmenant en mer. Comment est née cette aventure?
Ben, c'est mon vécu, quoi. Moi, la mer, à une époque, elle m'a cadré, hein. J'étais un jeune qui a eu une enfance pas facile du tout, quoi.
En quoi était difficile votre enfance?
Avec une mère maltraitante, quoi. Et donc, à 14 ans, j'ai quitté la maison, hein. J'ai fait l'école pré-maritime à Cherbourg. Et ensuite, j'ai fait 3 ans le tour du monde sur des bateaux. Ça m'a cadré. J'aurais très bien pu partir en sucette, hein. Et la mer, les marins m'ont toujours cadré. Ça fonctionnait pour moi. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionnait pas pour d'autres. C'était un constat basique.
Mais qu'est-ce qui vous a apporté que vous n'aviez pas chez vous?
Ça m'a apporté tout. Ça m'a apporté, j'ai retrouvé une famille. C'est des gens rudes, mais des gens qui ne trichent pas. Des gens authentiques.
Et est-ce que vous avez trouvé de l'amour?
Bien sûr. Quand vous avez 15 ans, vous êtes à l'autre bout du monde. Hein. Quand je me souviens, Osaka, au Japon, le Bosco, vous êtes son gosse. Hein. Vous êtes son môme. Il vous prend sous son aile. Il vous protège. Il vous empêche de faire de dériver, de partir. Il vous remet dans le bon cap, quoi.
Et à un moment, vous décidez de changer de vie. Pour quelle raison?
Bon, il y a eu un drame à un moment. Le pétrolier Betelgeuse a explosé en Irlande. Ils sont tous morts dessus à l'époque. Il y a eu 30 morts. Et j'avais 4 collègues avec moi de la marine marchande qui étaient dessus, qui sont morts. Ça m'a complètement chamboulé. Quand vous avez 20 ans, vous apprenez ça. Ça. Et donc, à l'époque, j'étais officier marin. Donc, je faisais mon service militaire. J'étais engagé résiliable. Et je voulais pas repartir à la mer sur le coup. J'ai pas voulu repartir, quoi. Et donc, je suis rentré à l'école de gendarmerie. J'ai fait gendarme. Je ne sais pas trop comment parce que j'avais quand même fait 33 ans. Mais par hasard, je me suis pas toujours trouvé à ma place, hein. Mais bon, il fallait bien, j'avais une famille, entre deux, je me suis marié, il fallait bien fonder. Mais je voulais repartir à la mer. Mais j'avais promis à mon épouse que je ne repartirais pas. C'était la condition pour se marier. Mais ça ne me lâchait pas, quoi. Et puis, il y a eu un déclic un jour. Quand j'ai amené un jeune en prison, un mineur à Caen, il a fallu le traîner, tellement il pleurait pour y aller.
Il avait quel âge?
Il avait 14 ans et demi, quoi. Donc, il a été placé en détention. Et quand il est ressorti de la détention, il est venu me voir, il me dit, vous faites n'importe quoi, vous savez, vous nous mettez là-bas, nous, avec, c'est ce qui se passe en prison. Et ça a été le déclic. J'ai dit, il faut que je reparte sur des bateaux avec ces jeunes-là. Et puis là, je suis parti dans un truc de fou, quoi.
Et là, donc, quand les paroles de ce jeune vous interpellent, font vaciller vos convictions, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là, alors? Qu'est-ce que vous décidez de faire?
Ben, j'ai dit à ma femme, soit j'arrête. Je voulais arrêter la gendarmerie sur le coup. Et puis, bien sûr, je me suis fait recadrer vite fait. Et donc, j'ai dit, il faut qu'on fasse autre chose. Donc, j'ai rencontré à l'époque Alain Périne à Cherbourg, qui avait un petit bateau, vieux gréement. Il voulait créer une association, on l'a créé tous les deux. Alors, dire qu'un gendarme qui dit, faut pas mettre un jeune en prison, je vais à contre-courant quand même.
Mais pourquoi la mer pour sauver ces gamins?
La mer, c'est les recadrer. Ces gamins, ils arrivent en toute puissance. Ils viennent des quartiers, ils viennent des trafics de drogue.
C'est des caïds.
Ils se croient des caïds au-dessus de tout le monde. Ils refusent l'adulte, ils refusent l'autorité. Sur le bateau, ils comprennent direct. D'abord, mon équipage leur dit, ici, il y en a qu'un qui commence, c'est le capitaine.
C'est vous le boss.
C'est moi. C'est seul maître à bord après Dieu, lui. Donc, c'est lui, tu vas. C'est ce qu'on va voir. C'est tout de suite vu. Il voit très vite le gamin. L'avantage qu'on a, c'est un peu vicieux ce que je vais dire, mais c'est comme ça, c'est la réalité de la vie. Dès qu'on part de Cherbourg, à tribord, dans l'Est, vous avez le Rat Barfleur, dans l'Ouest, vous avez le Rat Blanchard. On a une branlée pratiquement d'assurés à chaque fois qu'on part. Et donc, le gamin, ça leur met tout de suite au truc, et il est obligé de leur faire confiance en l'adulte, puisque c'est l'adulte qui va le ramener au port. Entre le premier jour et le 10e ou 15e jour où nous sommes partis, le gamin, il a complètement changé. Et moi, je sais qu'il a gagné quand il met il met plus sa casquette, parce qu'il y a longtemps qu'elle est partie à la mer avec le vent. Il met un bonnet de marin, comme tout le monde. Et un jour, un matin, il m'appelle bonjour capitaine. Et quand je sais qu'il m'a dit bonjour capitaine, je sais que j'ai gagné, quoi.
Parce que la mer, ça rend humble.
Il n'y a pas chaud à tous ceux qui ont voulu l'affronter. Ils ne sont pas là pour le raconter. Hein. On ne la domptera pas, la mer. C'est elle qui commande.
Sophie Leroy, vous connaissez bien Gérard Bourdet. Qu'est-ce que vous pensez de son association ?
Gérard, je le connais depuis plus de 30 ans, il me connaît depuis que je suis gamine. Il connaissait mon père qui était mareyeur à l'époque. Nous, on participe avec Gérard en leur fournissant un peu de poisson pour les jeunes, pour leur permettre de découvrir aussi des produits de la mer. Et puis Gérard, c'est un personnage, quoi. C'est la gentillesse incarnée et on vient de l'entendre. Enfin, il est passionné.
Mais ces jeunes que vous emmenez en mer, eux n'avaient jamais mis le pied sur un bateau, pour la plupart, ou comment ça se passe ?
Pour la plupart, non, mais si, il y avait aussi des gamins de pêcheurs, des gamins qui pensaient avoir fait le tour du monde, ou la route de Rome, que sais-je, mais moi, je repère tout de suite quand je demande qui a fait le bateau. Moi, je connais. Bon, alors j'y passe la barre, et puis il comprend très vite un bateau de 30 tonnes, qui fait 10 mètres de voilure, il voit tout de suite qu'il ne va pas le maîtriser, l'engin. Hein, donc il y a quand même quelques règles de base qu'il va falloir qu'il apprenne, il va falloir qu'il se calme, qu'il devienne humble.
Vous emmenez ces jeunes sur votre bateau, un langoustier de 18 mètres. C'est malin d'avoir choisi le bateau, parce que ces jeunes, ils peuvent pas aller bien loin une fois qu'ils sont dessus. C'est une sorte de centre fermé, mais ouvert vers le grand large.
Oui, tout à fait. Le vieux gréement est important, à mon sens, parce qu'un vieux gréement, c'est pas un produit de consommation courante de plus qu'on leur met à disposition. Hein. Souvent, dans les centres éducatifs, on les amène à la montagne, on les amène faire du fun. Nous, c'est pas fun, un vieux gréement. C'est pas fun, ça les intéresse pas trop. Hein. Ça va pas vite, ils veulent que tout aille vite. Hein. Sauf que vieux gréement, on sait d'où on vient. Et pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et là, on leur explique que ce bateau-là, il sent la sueur.
Et le fait d'embarquer ces jeunes sur ces bateaux à voile, ça favorise une relation particulière entre les adultes et ces jeunes.
Déjà, voilà, dans ce monde individualiste hein, où ils sont, quand on les écoute, ils sont tous, ils ont des bandes, ils sont des bons copains. Et moi, je leur dis toujours, t'as vu, t'as remarqué, ça fait un mois et demi que t'es placé à mon centre là-bas, personne t'a écrit, personne n'est venu te voir. Tes copains, c'est un peu léger quand même. Hein. Y a que nous, au fin de compte, tout le monde s'en fout de toi. Y a que nous. Et ça crée, bien sûr, le bateau il restreint, donc on est à plusieurs. Il faut bien qu'il supporte d'abord l'adulte. Il faut et puis dans un milieu restreint, il faut que tout le monde se supporte, sinon ça va être vite la révolution, quoi.
Vous êtes combien sur le bateau ?
Alors, on embarque 4 jeunes maximum, un éducateur, moi-même et 2 membres d'équipage. Le gamin, au bout d'une journée ou deux, il voit bien que c'est nous qui gérons la chose, lui, il ne la gère pas, la chose. Donc il s'en remet à nous, il n'a pas trop le choix. Il faut qu'il comprenne vite, quand je lui demande de faire à manger le soir, moi je ne fais pas manger, bon, d'accord. Mais quand il s'assoit, qu'il voit qu'il manque une assiette, il comprend vite que, t'as pas travaillé, tu manges pas, mon gars. Voilà, c'est comme ça. Et il me dit, je m'en allais, va-t'en, saute, hein, mais t'es perdu, hein, faut pas rêver. Hein.
Et le bateau, c'est propice à la confession. Il se dit des choses qu'il n'aurait pas dit ailleurs.
Tout à fait, voilà, parce que je perds pas non plus mon rôle d'éducateur entre deux. Hein. Les quarts de nuit, par exemple, quand vous êtes deux, tout le monde dort dans le bateau, on est deux à la barre derrière, le gamin, souvent, c'est là qu'on a des confidences, et puis qu'on voit que, avant de juger, de cataloguer tous ces jeunes en ce moment, quand on dit que c'est des racailles, tout ça, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de gamins en souffrance qui n'ont pas la même chance que nos enfants que nous, on a élevés, encadrés, quoi. Et là, ils expriment leur souffrance. Et ils ne s'aiment pas, hein, faut pas croire. Hein. Dès qu'ils sont sortis de leur contexte de groupe et de bande, il ne s'apprécie pas du tout le jeune. Hein. Il dit d'abord je suis nul, je suis une merde, bref. Et moi je lui dis prouve-nous que tu es autre chose qu'une merde et un nul, comme tu dis. Prouve-nous que tu sais faire autre chose. Et quand il commence à faire un quart, ça pourrait être très long à expliquer, parce que le bateau, tout est prétexte, ils sont déscolarisés. Moi quand je leur dis il y a 1 000, c'est 1852 mètres, il y a 20 000 pour aller à Saint-Valaou, combien de temps on va mettre pour aller là-bas? Si vous dites ça comme ça, il va vous envoyer promener, s'en fout. Si vous lui dites, on va partir à telle heure, à quelle heure ça va, je vais te payer un kebab et que tu auras une douche, là, il va voir les choses différemment. Donc, c'est toute une histoire. C'est 25 ans de contact. Hein. J'ai fait aucune école d'éducateur ni rien, mais c'est sur le terrain que j'ai appris tout ça, quoi.
Et avec ces jeunes, vous faites aussi des actions d'intérêt public.
Oui, voilà. J'ai créé l'opération « Port propre, main propre ». Donc c'est tout symbolique, quoi. Quand on arrive dans un port, on nettoie le port, on nettoie les infrastructures portuaires, dernièrement on était pas l'abri d'un canot SNSM, sauvetage, quoi. Et après, quand on repart, on a le merci de la municipalité, ils payent avant ce foutu le virus, là, ils nous payent à manger tout simple, hein, mais enfin une pizza ou quelque chose au gamin pour dire merci. Donc il repart les mains propres, le gamin. Il n'a pas les mains sales du voleur ou du... C'est ça le déclic.
Ces jeunes, vous les comprenez d'autant mieux que c'était vous, quand vous étiez à leur âge.
Voilà, tout à fait. Moi je leur dis, moi j'étais comme toi, j'ai fait des conneries, des petites, sauf que moi, j'étais plus malin que toi, je me suis pas fait gouler, ou alors était moins grave. Alors quand tu dis que toi, t'es malin, t'es fort, t'es pas fort puisque t'es placé dans le centre-là. Si t'avais été malin, tu serais pas ici, si tu t'es fait avoir, toi. Donc, moi, par contre, j'ai pris tout de suite conscience que c'est pas la bonne vie, c'est pas la vraie vie, c'est pas ça, l'argent facile, là. Et donc, je lui dis, c'est à toi de prendre conscience aussi. Oui, mais enfin, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Quand vous dites ça au gamin qui vous dit, ouais, mais moi, au SMIC, c'est 1200 euros, alors que moi, j'ai 2000 euros à la drogue, c'est pas facile. Mais je lui dis que ces 2000 euros, il va en profiter, ça va être très court. Jusqu'au jour, il va se faire serrer, parce qu'ils se font tous serrer, ou il va se faire descendre parce qu'il va pas payer les fournis. Parce que je lui dis, derrière, toi, tu as une grosse mafia, tu as du grand banditisme, il faut lui faire prendre conscience de tout ça, quoi.
Cherbourg, ça représente quoi pour vous?
Ben, ça représente tout, ça représente le large, ça représente ma base, partir, Cherbourg on part, hein, c'est ouvert sur tout, hein, Cherbourg. Hein. J'ai posé mon encre, mes valises pour ma retraite, mais je repars toujours. J'ai toujours plaisir à revenir à Cherbourg. Et puis le cherbourgeois, il faut le connaître. On regarde comme ça un petit peu de biais les gens, mais quand la confiance elle est faite ou quand l'amitié elle est là jusqu'au bout, quoi.
Sophie Leroy, vous êtes armatrice à Cherbourg. Vous, ça représente quoi Cherbourg pour vous?
Oh bah Cherbourg, je suis cherbourgeoise, moi je suis née ici, donc je suis vraiment pure cherbourgeoise, j'adore ma ville. Elle est agréable à vivre, moi je trouve que le climat est particulièrement agréable. C'est doux, on souffre pas de la chaleur l'été, on n'a pas de gelée l'hiver, on a plein de choses à visiter, il y a l'Agde, il y a le Val-de-Serre, il y a toujours quelque chose à faire ici.
Sophie Leroy, depuis 22 ans, vous dirigez avec votre mari la société L'Armement Cherbourgeois. Vous possédez combien de bateaux ?
5.
C'est des grands bateaux, c'est...
C'est des bateaux de 22 mètres.
Vous-même, vous êtes issu d'une famille de marins ?
Alors, mes parents étaient marailleurs, donc sur Cherbourg, et le père de mon mari était patron pêcheur. Donc, en fait, on se connaît depuis qu'on est gamin, et voilà. En 99, on a acheté notre premier bateau, le Marie-Catherine. Et voilà, donc on est en 2021, et on a 5 bateaux maintenant.
Et vous pratiquez quel type de pêche ?
Chalut. Chalut, et donc les bateaux partent 4 à 5 jours en mer, et en mer de la Manche uniquement, donc dans les eaux entre la France et l'Angleterre.
Et vous attrapez quel type de poisson avec vos bateaux ?
On attrape tout poisson et on suit la saisonnalité du poisson, donc à chaque saison le poisson change. Au mois de septembre on va commencer la saison des céphalopodes, donc l'encornée, la sèche. Voilà, notre but, c'est de suivre la saisonnalité du poisson. C'est pour ça que nos zones de pêche évoluent en fonction de l'année.
Comment ça s'est passé pour vous avec le Covid ?
Mal. On a fait le grand chelem, nous, en 2021. On a cumulé et le Brexit et le Covid. Le seul point bénéfique qu'on peut retirer de la pandémie, c'est qu'on voit que les gens, quand même, cherchent à manger des produits en circuit court. Et on le voit aujourd'hui sur les marchés. Il y a énormément de monde et on voit que les gens, à mon avis, c'est une bonne chose, fuient un peu la grande surface enfermée pour pouvoir acheter leurs produits et les produits des petits consommateurs et des petits producteurs en plein air et dans les marchés locaux.
Sophie Leroy, vous êtes la patronne d'une cinquantaine d'hommes. C'est difficile de diriger ces marins quand on est une femme ?
Non, pas du tout.
Ils ont la réputation d'être un peu rugueux, les marins, parfois.
C'est une réputation, c'est une légende urbaine, ça, on va dire.
Moi, j'en ai rencontré quelques-uns, ça s'est vérifié, parfois.
Non, mais bon, j'ai du caractère, hein, quand même. Donc, non, ça se passe très bien. Je vais pas dire que je préfère travailler avec des marins qu'avec des nanas, mais quasi, quoi. Il faut du dialogue, quoi. Les gars, quand ils rentrent de la mer, qui passent 5-6 jours en mer, ils ont besoin de discuter, ils ont besoin... de parler. Donc ma porte est toujours ouverte et les gars viennent toujours facilement me voir dans le bureau pour discuter ou pour échanger sur leurs problèmes.
Vous jouez plusieurs rôles auprès d'eux en fait. Vous n'êtes pas que la patronne.
Ah oui, mais ça c'est ma manière de travailler. Je pourrais être que la patronne, mais je veux que mon armement soit un armement familial.
On en parlait avec Gérard tout à l'heure en introduction. La mère, ça représente quoi pour vous ?
Tout. Tout. Si je la vois pas, ça va pas. Je pourrais pas habiter à la montagne, je crois que je manquerais d'iode.
Vous êtes shooté à l'iode ?
Ouais, c'est ça. On est shooté à l'iode ici. Non, elle est très importante. Je crois que la plus belle image qu'on ait quand on rentre de vacances, c'est quand on descend de l'axe nord-sud et qu'on voit la rade de Cherbourg devant nous, on se dit ça y est, on est sauvé, on est rentré. Voilà, donc non, elle est très très importante, elle est vitale.
Vous êtes tous les deux des amoureux de la mer. Je vais vous emmener dans un endroit incroyable et ça se passe sur la terre ferme, pas loin d'ici, à Flamanville. Ce lieu, c'est la ferme pédagogique aux 5 saisons. Sur un terrain de 30 hectares, François Thiébaud propose de renouer avec la nature auprès des différents animaux qu'il possède en initiant les visiteurs à faire du pain avec le blé de sa ferme et aussi en faisant une partie de golf paysan. Et si vous êtes sage, vous aurez le droit à un conte en langue normande.
France Inter. Rendez-vous, place du marché.
Ah, hop, je prends ma vieille pelle.
On a sorti toute la chaleur qui est sortie quand vous avez ouvert la porte.
Alors regardez, voilà le pain là qui sort. On en croquerait, mais on va attendre parce qu'il est un peu chaud là.
Et c'est un pain qui est fait avec du blé d'ici.
Alors, le pain est fait avec le blé de la ferme, donc on cultive notre blé et on récolte notre blé. Je ne le moue pas ici, je l'emmène chez Monsieur Roupsard, là, dans le Val-de-Serre, et il me fait une farine extraordinaire, donc avec le blé que je cultive. Ouais.
Et lorsque les enfants viennent ici voir comment vous faites votre pain, vous leur transmettez des valeurs.
Oui, eh ben on essaye, bien sûr. Alors, je leur fais prendre conscience aux enfants que le petit grain de blé, lui, déjà, il vit. En fait, là, on va faire le pain avec les enfants. Alors, on met de l'eau, du sel, un peu de levain ou de la levure. Et puis, en fait, les enfants vont le manger. Je leur fais bien prendre conscience que le travail tout seul, parfois, ils ne vont pas y arriver. Donc, quand ils mettent effectivement leur travail en commun, leur force en commun, eh bien, ils vont arriver à quelque chose. Et souvent, s'ils ont là le plaisir de manger le pain, eh bien, c'est parce que ils ont écouté les consignes. Et puis après, eh bien, ils ont le plaisir de manger quelque chose qui leur donne effectivement la force et le pouvoir de grandir.
Quand vous leur parlez du blé, de la notion du vivant, c'est une façon de les reconnecter à la nature. Ils ont un peu oublié ça, les enfants, même ici ?
Oh oui. Mais il y a si peu de différence entre les enfants de la ville d'ici et de Paris. Ils sont tous, malheureusement, un petit peu déconnectés. Oh, ils sont connectés, mais pas forcément à la nature. Ils sont
à leur téléphone.
Ah là, à leur téléphone. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, là, il n'y a aucun souci pour ça.
On poursuit, François ? Qu'est-ce qu'on fait ?
On a, depuis 5 ans, ouvert un parcours de golf paysan. Ça se joue dans les champs.
Golf paysan ?
Golf paysan. En fait, il n'y en a pas d'autres en France. Hein. Et ça se joue avec des gros clubs, des clubs en bois, qu'on a spécialement étudiés pour l'occasion.
C'est vous qui les avez fabriqués, les clubs ?
Inventés et fait fabriquer. Donc, on joue parmi les animaux. On est parmi les vaches, les ânes, les chèvres. Et là, on arrive donc dans le golf.
En fait, c'est une prairie, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc, elle n'est entretenue que par les vaches. Alors, il arrive des fois au printemps que je sois obligé de passer un petit coup de tondeuse pour autour des trous. Mais là, cette année, il n'y a pas eu besoin. On ouvre la barrière. Bienvenue sur notre parcours de golf paysan.
Voilà, c'est beau. Bon, après, c'est pas un gazon anglais, hein.
Ah non, c'est pas un gazon anglais. Hein. Donc, il y a 9 trous. Les départs sont matérialisés par des petites rondelles en bois, les arrivées par des potilles en granit. Alors voilà, on va poser la balle sur une petite touffe d'herbe. Hein.
Et alors faites-moi le plus beau swing
je vais essayer,
du golf paysan. Joli tir, hein, François. On sent, on sent l'expert, sent l'habitué.
Là, il y a des années d'expérience hein, déjà.
Mais François, pour ceux qui ne sont pas aussi experts que vous, des fois on peut envoyer la balle sur une vache ici, là.
Oui, certes, mais bon, voilà, bah, la vache, elle va se pousser, la balle va rebondir sur la vache, et puis...
Ça peut lui faire mal ?
Non, c'est pas douloureux pour les vaches.
Et vous êtes aussi conteur, François.
Oui.
Et vous faites des contes en langue locale, en normand.
Aux enfants, je raconte souvent des histoires autour de la nature, justement. Bon, alors, je raconte quelques légendes, quelques histoires un petit peu drôles, ou des histoires qui font peur, bien sûr. Les enfants aiment bien les histoires qui font peur.
François, est-ce que vous voulez bien me raconter une histoire en normand ?
Ouais, bien sûr. Quand on arrive au bout de la grève, il n'y a plus de sable. Il n'y a que des galets ronds, roulants, tapissiers d'algues gluantes, bien souvent. Et quand on s'aventure sur ces galets, bien souvent, on le pigrille. Et quand on le pigrille, on s'affale. Mais derrière ces galets, un rocher immense, tachier de rouages. Et derrière ce rocher, l'entrée d'une grotte sombre, nerf profonde. Et là, à l'intérieur, un monstre. Et quand on s'aventure dans cette caverne, avec précautionnement, eh bien, du coup, là, des chauves-souris viennent s'accrocher dans les gueules.
Ne reste-t-il que les épines ou un grand feu de bois ? Bourgeons un beau jour, la glycine danse sur le toit. Dis quand refleuriront les coquelicots. Vivons tant que voleront les corbeaux.
C'était Laura Cahen et Yaël Naïm avec Coquelicot.
Antoine Lee.
Vous écoutez France Inter, rendez-vous Place du Marché est à Cherbourg, dans la Manche. On est toujours avec Sophie Leroy et Gérard Bourdet, nos deux passionnés de la mer. Nous avons été rejoints par Sandrine Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on parlera de la grande place qu'occupe le nucléaire dans la région. Vous connaissez bien la question puisque vous travaillez à l'usine de retraitement des combustibles radioactifs de La Hague. À côté de vous, on a Gilles Triolier et Manuel Sanson. Vous êtes les fondateurs du Poulpe, le média d'investigation normand. Vous êtes en quelque sorte le Mediapart local. Il vous arrive d'ailleurs de travailler avec eux. Comme eux, vous publiez vos enquêtes sur le web, sur votre site lepoulpe.info. Quel est votre périmètre d'investigation, Manuel Sanson?
Le périmètre, c'est la région Normandie. Tous les départements normands, Seine-Maritime, Calvados, Eure, Manche et Orne. Et les grandes villes principales, Le Havre, Cherbourg, Rouen, Caen.
Alors vous êtes tous les deux des journalistes très expérimentés. Manuel Sanson, vous travaillez pour l'AFP. Et vous, Gilles Triolier, vous collaborez avec Le Monde. Gilles Triolier, pourquoi avoir lancé ce média d'investigation local il y a 2 ans ?
Parce qu'à nos yeux, il y avait un manque. On est le seul. D'ailleurs, on dit le média d'investigation normand parce qu'on est le seul. Il y avait pas le journalisme qu'on appréciait, des choses qu'on avait envie de lire dans la presse régionale traditionnelle. Et voilà pourquoi on s'est lancé. Il y avait un espace à prendre. Il y avait un type de journalisme qu'on avait envie de faire et d'incarner en Normandie qui n'existait pas. Et voilà pourquoi on s'est lancé il y a 2 ans, en mai 2019.
Pourtant, l'offre des journaux locaux, elle est importante dans la région. C'était quoi le problème ?
Oui, effectivement, l'offre des journaux locaux, elle est importante. Par contre, il y a vraiment un déficit en termes d'enquête, d'investigation, de révélation. Et voilà, le créneau sur lequel s'est créé le Poulpe, c'est vraiment celui-ci. C'est de pouvoir développer des sujets de fond, fouiller, argumenter, enquêter longuement sur les thématiques diverses, comme l'énergie, l'environnement, la politique, la justice aussi. Et ça, par contre, même s'il y a beaucoup de journaux régionaux ou locaux, il y a un manque, et il y avait un manque là-dessus. Et donc, on a décidé de se lancer pour combler ce vide-là.
Et ce manque s'explique par le manque d'indépendance de ces médias locaux traditionnels ?
Principalement, il y a beaucoup de connexions en région, même au niveau national, mais en région c'est encore plus marqué, entre le politique et l'économique. C'est parfois difficile pour des grosses rédactions et des gros journaux où les intérêts économiques sont croisés, de sortir les gros dossiers là où on se spécialise nous, à savoir sur les enquêtes politiques, économiques. C'est compliqué pour des gros groupes de presse. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres raisons qui leur appartiennent, mais je pense que cette proximité économique rend compliqué d'aller investiguer sur tous les terrains. Et nous, pas du tout. On est totalement indépendants, donc on va où on veut.
Justement, le Poulpe, comment vous fonctionnez ? Comment vous gagnez cette indépendance ?
Ben, on gagne cette indépendance dans le sens où, en fait, on ne dépend d'aucun financement, ni de collectivités locales, ni d'entreprises, petites ou grandes. Donc, forcément, partant de là, on est vraiment libre de choisir les sujets, de la manière dont on va les traiter, et surtout d'aller sur des thématiques qui grattent un peu, qui peuvent déplaire. Là-dessus, on n'a aucune contrainte et aucune tutelle, si je puis dire, qui peut s'exercer sur nous. Donc, voilà comment l'indépendance se concrétise et se matérialise, en fait.
Alors, sur le Poulpe, on peut lire, donc, effectivement, des enquêtes très fouillées. Quelles sont les enquêtes qu'on peut trouver en ce moment sur votre site ?
En ce moment, on a pas mal de choses en stock. On a fait notamment un sujet sur la criminalisation du mouvement social dans différents hôpitaux psychiatriques de la région, notamment en Seine-Maritime, au Havre et à Rouen, qui avaient connu de gros conflits sociaux. Et donc aujourd'hui, où certains leaders de cette contestation sont inquiétés, poursuivis par la justice, par exemple. On a aussi beaucoup travaillé, par exemple, sur l'accident Lubrizol aussi à Rouen, qui date d'il y a maintenant à peu près 2 ans. Voilà, c'est quelques exemples qu'on a pu raconter dans le Poulpe, en fait.
Le Poulpe est né il y a 2 ans. Est-ce que, en 2 ans, il y a eu des coups de pression de la part de politiques, d'acteurs économiques ?
Eh ben, étonnamment, non, pas vraiment, en fait. Il y a pas vraiment eu de coup de pression. Il peut y arriver quelques échanges tendus, mais on n'a jamais eu de pression forte sur notre média à l'occasion de la sortie d'un article ou de je crois qu'on s'est installé dans le paysage. Les différentes institutions ont compris aussi ce qu'on faisait, la manière dont on travaillait, c'est-à-dire aussi, sérieusement, sans parti pris et sans être un journal militant, mais vraiment en étant un objet journalistique, en fait, sérieux et crédible. Et donc voilà, il n'y a pas eu spécialement de pression de la part des institutions.
C'est pas forcément étonnant, ça prouve que vous faites bien votre boulot, quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on n'a pas encore été attaqué en diffamation, mais j'en reviens à l'indépendance économique. En gros, il n'y a pas d'angle d'attaque, donc d'accroche pour les gens qui voudraient s'opposer à nous. Souvent dans la presse régionale ou nationale, c'est un coup de fil pour dire on te coupe les budgets pubs ou tel sponsor, et voilà. Nous, ils n'ont pas cet angle d'attaque-là, donc on reçoit pas ce genre de coup de fil pour mettre la pression éventuellement sur des rédactions, comme ça peut arriver. Donc pour l'instant, on n'est pas soumis à ce genre d'aléas, tant mieux.
Comment vous travaillez ? Et les journalistes qui alimentent le Poulpe, comment vous fonctionnez ?
Ben, en fait, on a le temps et on a fait le choix au démarrage aussi parce qu'on avait de toutes les manières pas les moyens d'avoir une couverture exhaustive de tous les sujets, de tout ce qui se passait dans la région. Donc, on choisit vraiment des sujets. On a choisi la qualité au lieu de la quantité. On publie, entre 2 et 3 articles par semaine. Donc, ça laisse le temps, d'enquêter, de fouiller, de contrebalancer les sujets et de sortir à l'arrivée des papiers de qualité, quoi. Voilà.
On a un réseau de journalistes pigistes répartis sur l'ensemble des départements à qui on laisse le temps de bosser. Si on demande aux journalistes de faire un sujet en 15 jours, on n'obtient pas une vraie valeur ajoutée. Les sujets qu'on propose, les journalistes ont mis X semaines, voire mois, pour les travailler, les affiner. Et c'est là qu'on a à la sortie un papier qui vaut le coup.
Aujourd'hui, c'est un vrai luxe, ça, d'avoir le temps d'enquêter. Et sur le site, vous faites aussi appel aux lanceurs d'alerte. Il y a un espace sécurisé et totalement anonyme. Ça fonctionne ? Vous avez eu des signalements comme ça ?
Ouais, tout à fait. C'est un système qui fonctionne et qui monte, je dirais, en puissance. On a de plus en plus de gens qui nous alertent sur des sujets vraiment divers et variés. Mais oui, ça fonctionne. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent et il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte qui ne souhaitent pas apparaître pour des raisons de confidentialité, éventuellement de mesures de rétorsion qu'ils pourraient subir de manière on, quoi, en gros. Et donc, ils nous alertent de cette manière-là en nous envoyant des infos que, bien évidemment, après, on investigue, on vérifie, on enquête et ça donne lieu à des articles à l'arrivée, ouais, tout à fait.
Est-ce que vous avez travaillé sur le nucléaire dans la région ?
Alors sur le nucléaire, oui, on a travaillé sur le nucléaire et notamment un de nos pigistes qui s'appelle Yves Deloison, qui lui avait raconté justement l'imbrication et les connexions en gros entre le tissu économique du nucléaire et les élus locaux dans la Manche, notamment dans le secteur de Cherbourg, mais aussi en Seine-Maritime en fait, où il y a aussi beaucoup d'installations nucléaires. Donc oui, on a travaillé là-dessus déjà, ouais, tout à fait.
Je vous pose la question parce que face à vous, on retrouve Sandrine Lecomte. Vous travaillez à l'usine de retraitement des combustibles radioactifs de La Hague. Vous êtes technicienne de laboratoire et représentante force ouvrière. En quoi consiste votre métier ?
Pour faire simple et essayer d'expliquer facilement pour que les gens comprennent, tout au long du procédé d'extraction et de séparation des produits valorisables des déchets, il y a des échantillons de prélevés et mon rôle en tant que technicienne de laboratoire est d'être sûr que la séparation se fasse bien et que derrière, on ait bien séparé les déchets et les produits valorisables.
C'est dangereux comme métier ?
Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas dangereux puisque le risque zéro n'existe pas, ou du moins, s'il existait, je pense que tout le monde le saurait. Après, tout est mis en œuvre pour que l'on travaille dans tout ce qui est sécurité et sûreté. On a des procédures à respecter, on a les autorités de sûreté nucléaire qui sont là pour tirer la sonnette d'alarme quand il y a un problème. Donc non, on ne peut pas dire que ce n'est pas dangereux, mais on met tout en œuvre pour que tout se passe bien.
En tout cas, je tiens à vous remercier parce que ça n'a pas été facile de trouver un interlocuteur pour venir parler de ce sujet-là ce matin. C'est un sujet qui est plus que sensible et brûlant. Vous comprenez ces doutes, voire cette hostilité par rapport au nucléaire ?
Oui, oui, je le comprends. Après, chacun a ses opinions. Certains sont contre. On est dans une région, au niveau du Nord-Cotentin, où le nucléaire est quand même très présent, puisque, hormis Orano, on a quand même EDF sur Flamanville. On a Naval Group avec les sous-marins. Donc, les sous-marins, c'est quand même des sous-marins nucléaires. Donc, pour le moment, on en a tous besoin. Et on a beau prôner les énergies renouvelables, pour le moment, c'est encore pas opérationnel. Donc, le nucléaire a encore une grande place. Et je pense qu'il est pas prêt de disparaître.
Sophie Leroy, je vous vois réagir. Vous hochez de la tête en disant oui, vous approuvez ce que dit Sandrine Lecomte. Alors vous êtes armatrice, vous ne faites pas partie de cette industrie nucléaire, mais pourquoi vous approuvez ce que dit Sandrine Lecomte ?
Mais j'ai pas l'impression que les gens soient contre le nucléaire dans la région. C'est ce qui nous amène le plus d'emplois, ça génère du travail, Naval Group, Orano, l'EPR, enfin... On ne va pas cracher dans la soupe, hein. Heureusement qu'on les a, hein, parce que sinon il n'y aurait plus rien ici. Hein.
Gilles Triolier, Manuel Sanson, vous qui avez enquêté sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous pensez de ce que disent Sophie et Sandrine sur le fait qu'ici, il y a une forme de dépendance économique et d'emploi par rapport au nucléaire ?
Bah, effectivement, c'est vrai qu'ici, le nucléaire, c'est un acteur économique de poids. Je dirais même que c'est la locomotive économique du territoire. Je crois que c'est 20, enfin, au niveau de la région Normandie, je crois qu'on est sur 28 000 emplois indirects et directs. Je crois qu'à Révalague, enfin, pardon, Orano, c'est maintenant au moins 5 000 emplois, hein, enfin, 3 200 directs et puis 1 000 ou 1500 sous-traitants qui travaillent sur le site. C'est ça ?
Oui, tout à fait, c'est ça.
Ça fait beaucoup de monde, donc c'est un acteur de poids. Je crois qu'ici, il y a aussi, enfin, les gens sont contents d'avoir effectivement ces entreprises-là qui donnent beaucoup d'emplois, qui apportent beaucoup de retombées fiscales aussi pour les collectivités, beaucoup d'investissements, plusieurs centaines de millions d'euros par an. Donc ce diagnostic-là, on ne peut que le partager. Après, la question, c'est effectivement la question des risques et la question de l'environnement aussi autour de l'usine, en fait.
Sandrine Lecomte, que deviennent les déchets les plus dangereux ? Ils deviennent quoi ? Ils finissent où ?
Alors les déchets les plus dangereux, ils sont... ce que nous... Les déchets les plus dangereux, c'est ce qu'on appelle les produits de fission. Donc les produits de fission sont coulés dans du verre et ils sont stockés. Mais il faut savoir que...
Ils stockés où ? C'est ça qu'on aimerait savoir.
Alors, ils sont stockés en profondeur, sous terre et en lieu sécurisé.
pour rebondir sur la question tout à l'heure, est-ce que tout est fait pour que, enfin, que la sécurité soit maximale? Et voilà, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, je crois que l'ASN a organisé un exercice inopiné, par exemple, du déclenchement d'un incendie sur le site de Dorano-la-Hague.
L'ASN, c'est
l'autorité de sûreté du nucléaire, et à l'arrivée, elle produit donc un rapport de simulation, et en gros, où elle explique que l'usine, de ce qu'elle a vu, n'était pas vraiment prête, n'était pas vraiment organisée, qu'il y avait des problèmes de communication, qu'il y avait des problèmes d'effectifs, que le SDIS, donc les pompiers, ont été prévenus, je crois, 35 minutes après le déclenchement de l'incendie, qui était fictif. Mais bon, voilà, ça, c'est des éléments, au-delà de la question pour ou contre le nucléaire, comment dire, qui méritent aussi d'être sur la place publique et de renseigner aussi les gens qui habitent justement à proximité de cette usine-là, qui est quand même une des usines les plus dangereuses au monde, il faut le dire, que l'information soit partagée et que éventuellement les pouvoirs publics et l'usine, enfin l'entreprise, fassent en sorte d'améliorer les choses pour que ce risque-là soit limité au maximum. Si demain il y a un incendie ou quelque chose de majeur sur l'usine de La Hague, c'est très, très, très grave, quoi, et pas simplement pour Cherbourg, pour toute la région et pour la France entière. Donc il faut juste en avoir conscience, en fait.
Sandrine Lecomte, qu'est-ce que ça suscite comme réaction chez vous lorsque vous entendez les mises en garde de Manuel Sanson ?
Effectivement, cet exercice-là, on a. En plus, moi, en tant que représentante du personnel, j'ai eu accès à ce rapport peut-être plus facilement qu'un salarié lambda. Effectivement, il y a des points qui ont été relevés comme quoi, il y a des manquements sur certaines choses.
Vous l'avez signalé, mais est-ce qu'il y a une réaction de votre hiérarchie, de la direction ?
À l'époque, non, il n'y a pas eu de réaction. Effectivement, nous, on avait remonté le fait que quand on partait en intervention, les talkie-walkie ne fonctionnaient pas. Nous, à la fin, je vais être honnête, on les prenait plus et on prenait le téléphone qui était dans le couloir parce que ça allait beaucoup plus vite en prenant le téléphone que le talkie-walkie.
Vous vous rendez compte que c'est quand même assez hallucinant, quoi, d'entendre ce que vous dites quand même. Enfin, ça nous inquiète quand même.
Oui, tout à fait, c'est hallucinant, mais je pense que, il y a aussi une manière de protéger les gens, c'est que les ondes ne passent pas dans les bâtiments. Parce que même un téléphone portable, dans le bâtiment, il ne passe pas. Donc, il n'y a pas possibilité, j'aurais envie de dire, de déclencher une bombe à distance à l'aide d'un téléphone. Donc, effectivement, les talkie-walkie ne fonctionnent pas, les ondes ne passent pas, et il faut trouver un moyen de communication qui puisse traverser ces murs et qu'on puisse ne pas avoir les manquements qu'il y a pu y avoir sur cet exercice inopiné.
On ne peut pas parler de nucléaire en étant ici sans parler de l'EPR de Flamanville. Le premier réacteur français de troisième génération a multiplié les problèmes. Le chantier devait être achevé il y a 9 ans. C'est toujours pas le cas. Il devait coûter 3 milliards d'euros et là, le coût total a été réévalué par EDF à 12, j'ai du mal à le dire tellement c'est impressionnant, a été réévalué par EDF à 12,4 milliards d'euros, mais pour la Cour des comptes, c'est même pire que ça, ça serait plutôt 19 milliards, une différence de 16 milliards entre l'estimation de départ et ce que ça va coûter aujourd'hui. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige.
Oui, effectivement, je pense qu'on peut parler d'échec, voire de fiasco industriel de ce point de vue-là. Il y a eu beaucoup de défaillances, notamment sur la cuve. Je crois que là, en ce moment, il y a un problème de soudure, en fait, où on s'est aperçu qu'elle n'était pas suffisamment résistante, qu'elle ne respectait pas les standards, en gros, qui étaient attendus dans l'industrie nucléaire. Donc c'est vrai qu'on peut dire que ce chantier a connu de très, très, très nombreux déboires. Oui.
Il y a la question aussi, au-delà de la sécurité, des choix budgétaires. L'argent qu'on met dans l'EPR, on voit le surcoût faramineux, l'argent qu'on va devoir mettre dans le démantèlement de certains réacteurs vieillissants ou dans le grand carénage, les opérations de grand carénage qui vont consister à protéger des réacteurs vieillissants, ça coûte un bras et c'est de l'argent qu'on ne met pas sur la transition énergétique à côté.
Sandrine Lecomte, quelle est votre position sur l'EPR ? Alors, c'est pas là que vous travaillez, mais vous avez quand même un avis là-dessus, c'est votre domaine.
Si l'EPR ne démarre pas, concrètement, c'est... c'est l'arrêt de l'usine de retraitement des combustibles. Et je pense que ça sera une très grosse catastrophe au niveau de l'emploi dans le secteur du Cotentin.
Alors, on le voit, on le comprend bien, c'est un débat qui va pas se refermer tout de suite, loin de là. Merci à tous. Restez avec nous, dans quelques instants, on va goûter les rillettes préparées avec des poissons pêchés par vos bateaux, Sophie Leroy, et on écoutera des chants marins.
Your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why?
c'était Amy Winehouse avec You Know I'm No Good.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Antoine.
On est toujours à Cherbourg dans la Manche. On s'est posé au café Le Scapin où Véronique, la patronne, nous a accueillis sur sa terrasse. On est toujours avec nos invités. Sandrine Lecomte, Gérard Bourdet, nos confrères du Poulpe et Sophie Leroy qui nous a apporté à manger car c'est l'heure de l'apéro. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de bon là?
Alors je vous ai apporté des rillettes de poisson local, donc pêchées par les bateaux de l'armement et qui sont
Vos bateaux?
Par mes bateaux, oui. Et qui sont fabriqués par les travailleurs de la mer. Donc les travailleurs de la mer, c'est une brasserie de bière locale et bio. Et donc on s'est associés tous les deux avec Guillaume et puis Simon pour et ils ont élaboré donc 5 recettes de poissons, de rillettes qui sont faites artisanalement avec exclusivement des produits bio, sans crème, de l'huile d'olive. Donc c'est comme un écrasé et surtout elles sont mises en pot artisanalement. Il n'y a pas de machine, c'est fait à la main.
Que tous les invités goûtent, vous avez goûté ou pas? Gérard, vous connaissez par cœur, vous?
Ben non, on découvre, c'est un produit qui vient d'arriver sur le marché, si j'ai bien compris.
Ah, c'est tout nouveau, c'est une exclue.
Ben, une chose est sûre, c'est que je vais en mettre, j'espère en mettre à bord. Oui, c'est très bon, oui.
Gilles, Triolier.
Ouais, je conseille la rillette de Carlet.
Manuel Sanson.
C'est très très bon, produit, belle découverte.
Sandrine Lecomte, vous avez goûté quoi et comment vous avez trouvé ça?
Alors moi j'ai goûté les deux, hein, le Carlet et la Dorade, et je conseille les deux parce que c'est vraiment très bon.
Sophie Leroy, vous avez mis en place un site internet qui s'appelle godaille.com. C'est un lien direct entre le pêcheur et le consommateur?
Au début de la crise, quand les cours du poisson ont diminué, les marins donc, qui sont payés à la tâche, qui n'ont pas de fixe, se sont retrouvés avec des chutes de salaire assez importantes. Donc on a décidé de mettre en place un site internet pour permettre au consommateur final de commander du poisson en direct du bateau. Donc en fait, ils commandent leur poisson sur le site, on envoie au bateau par mail. Ce sont directement les marins qui préparent les commandes. Le bateau rentre de la mer et 24 heures après, c'est à Marseille ou c'est partout dans la France. Donc c'est vraiment du pêcheur au consommateur. Il n'y a pas du tout d'intermédiaire. Et ce qui est très important dans la démarche, c'est que l'intégralité des recettes de la godaille sont reversées à tous les marins.
On voit qu'il y a les mouettes qui sont au-dessus de nous. Là, je crois qu'elles veulent goûter de vos rillettes de poisson.
Oui, bon, on aura fini les pots avant. Hein.
Sophie, pour accompagner ces délicieuses rillettes de poisson, quoi de mieux que des champs marins? Bonjour, le cœur des marins du Cotentin. Alors c'est un bonjour collectif car vous êtes assez nombreux. Là aujourd'hui vous êtes venus à une quinzaine, c'est ça?
Une quinzaine, on est 45 dans le groupe, ce qui nous permet d'assurer des concerts à 25-30 personnes pendant les périodes estivales.
Lionel Ouivet, d'habitude il y a des instruments. Aujourd'hui vous êtes venu sans instruments mais d'habitude il y en a.
D'habitude on a notre chef de chœur qui joue de la guitare, on a un bassiste, un accordéoniste. Et voilà, donc on a des ténors, des barytons et des basses, des grosses voix, les basses.
Vous avez accepté de nous interpréter l'hymne du Cotentin.
Sur la mer, qui parle de la mer, donc dans ces aspects où les gens pensent qu'elle est belle, mais aussi où elle fait peur, parce que la mer, elle prend les pêcheurs parfois. Donc voilà, c'est quand on est dans les concerts, on est obligé de la chanter, quoi, elle est réclamée, et généralement reprise en chœur par le public, parce qu'elle est connue de... Je disais, les trois quarts des gens du Cotentin connaissent Sur la Mée, parce que on l'appelle ça l'hymne du Cotentin.
On vous écoute.
La Mèche est vraiment superbe, et j'aime bien quand il fait bio. Elle était sous nos cieux en herbe, lavait sans dormir un agneau. Mais quand elle fâche la vilaine, et que nous entendons de chez nous, la grosse voie de la sirène nous en a quasiment pour. Quand je suis sur le rivage, mis tranquille et tout coumé, je pense à ceux qui sont en viage, en viage au loin sur la mer, en viage au loin, en viage au loin sur la mer.
Merci beaucoup, le cœur des marins du Cotentin, Lionel Ouivet. Quelle est l'origine des champs marins?
L'origine des champs marins, elle vient du travail sur les bateaux, beaucoup. Hein, c'est-à-dire que les champs rythmaient le travail sur les bateaux. Donc il y avait des champs pour tirer les voiles, des champs pour pousser au cabestan.
Ah, il y avait un type de champ, voilà, par métier.
Voilà, par métier. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de chansons de marins pour lesquelles on n'a pas d'auteur, parce qu'elles ont traversé un petit peu les époques. Hein, elles ont été chantées sur les bateaux, on les a retrouvées, on les chante.
Ça se transmettait de façon orale.
Orale sur les bateaux, voilà. Et aujourd'hui, par contre, il y a des auteurs qui sont connus, qui ont écrit pour les champs de marins. On parle de Michel Tonnerre, qui est un Breton, qui a écrit beaucoup pour les champs de marins. Et puis vous avez aujourd'hui des auteurs connus, Charles Aznavour qui a écrit, Bernard Lavilliers a écrit pour les marins. Hein, on a eu Alain Barrière qui a chanté aussi avec la Marie Joconde, qui est connue. Voilà, donc Pierre Macorlan qui a écrit une chanson qui s'appelle Fanny de la Ninon, qui est une chanson de marin, donc des auteurs connus également. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous décrire les différents styles de musique par rapport aux différents métiers ?
Si vous voulez, il y a des chansons un peu... Les calfas, c'est une chanson mélancolique.
C'est quoi les calfas ?
Les calfas, donc c'était le métier de calfatage qui, sur les bateaux en bois, c'est ce qui permettait de réparer les fuites. Donc c'était du goudron chauffé avec de l'étoupe qu'on mettait sur les bateaux. Donc c'est un métier très difficile. Et la chanson des calfas, c'est une chanson mélancolique qui parle de la fin du métier des calfas. C'est-à-dire que bien que ce soit un métier très dur, quand ça a disparu, les marins ont chanté pour dire qu'ils étaient tristes que leur métier aussi difficile disparaisse. Après, vous avez des chansons plus entraînantes, comme La Tonne. Hein. La Tonne, c'est « Ah, la tonne va bien monter ». C'est quelque chose qui... on voit bien le... il faut tirer, il faut pousser, donc il y a une chanson à tirer. Voilà.
C'est un travail physique et ça encourage.
Un travail physique et il faut envoyer de la musique pour donner du courage.
Merci beaucoup, le cœur des marins du Cotentin. Vous serez au complet dimanche après-midi sur la plage verte de Cherbourg pour l'arrivée du Fastnet, cette course qui relie l'Irlande et Cherbourg. Elle réunit pas moins de 450 bateaux. Tous les détails sur notre page web de Rendez-vous Place du Marché. Merci à tous d'avoir participé à notre émission. Merci à Jean Lavallée de la Presse de la Manche. À la réalisation Christophe Imbert, à la préparation Irène Ménahem, assistée de Julien Martin. Merci à Thomas Lehété. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, pour la dernière de la semaine, vous retrouvez Auris Fez à Fort-Calquier, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.